Si tu croyais être victime d'une intoxication alimentaire, est-ce que tu le signalerais? Prendrais-tu un test? Lorsqu'il s'agit d'éclosion de maladies d'origine alimentaire, des équipes de détectives travaillent sans relâche, 24 heures sur 24, pour trouver les coupables et sauver des vies. Dans cet épisode, quatre détectives canadiens vont nous parler de leur enquête et de leur cas résolu.
Michel, je crois qu'il est temps de présenter nos invités. J'ai introduit notre première détective, Megan, de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Bonjour, Megan.
Bonjour, mon nom c'est Megan Griffin. Je suis une spécialiste de salubrité et de rappel d'aliments avec le Bureau de salubrité et de rappel d'aliments à la CIA.
Avez-vous l'impression d'être comme genre de Sherlock Holmes ou de faire partie d'un épisode de CSI? Est-ce que vos enquêtes ressemblent à ce qu'on voit à la télévision?
Oui, c'est vraiment cool. Je dirais comme des centaines, des milliers de dossiers à chaque année. Là, fait qu'il n'y a jamais deux enquêtes qui sont pareilles. Mais ça prend un petit peu plus longtemps en vraie vie. Surtout, je pense, quand ça vient aux éléments en laboratoire, c'est pour faire des analyses, pour identifier un pathogène ou une bactérie, là, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines. Ensuite, si on doit faire des analyses sur l'ADN, ça peut prendre plus quelques semaines encore.
Voici maintenant Tanis et Courtney.
Sure, thank you so much for having us. So I'm Tanis Kershaw.
Salut, je suis Tanis Kershaw et je suis gestionnaire de la division de la gestion des éclosions de l'Agence de la santé publique du Canada.
Hey, and yes, my name is Courtney Smith.
Et moi, c'est Courtney Smith. Je suis épidémiologiste principale aux côtés de Tanis dans la division de la gestion des éclosions. Le terme épidémiologiste est défini comme une personne qui étudie les tendances et les causes des maladies. Mais de manière plus informelle, j'explique souvent le rôle d'un épidémiologiste comme étant une sorte de détective des maladies. C'est vrai que je nous vois comme des détectives. Je ne sais pas si les vrais détectives apprécieraient l'analogie, mais nous avons vraiment l'impression d'être à la recherche d'indices et d'éléments de preuve. Et nous tentons d'en faire un tout logique.
Et enfin, je vous présente notre quatrième détective, Émilie.
Bonjour, mon nom est Émilie Turgeon. Je suis évaluatrice scientifique à Santé Canada. Ça va faire un peu plus de 7 ans maintenant que je suis dans ce poste-là. C'est sûr que moi, mon rôle est davantage au niveau de la microbiologie, mais les matières étrangères font aussi partie de notre mandat. Puis on a des collègues qui, eux, vont être spécialisés au niveau des allergènes, de la qualité nutritionnelle ou des contaminants chimiques. Donc, quand on revient à notre évaluation de risque, la première étape, identification du danger, bien, le danger, il peut être beaucoup de choses. Il peut être tout ce qu'on vient de nommer. Ceci dit, dans une éclosion pour un empoisonnement alimentaire, dans une proportion importante du temps, c'est vraiment un micro-organisme. C'est une problématique microbiologique.
Bonjour, c'est Greg.
Et moi, c'est Michel. Et vous écoutez Inspecter et protéger, le balado officiel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.
Où l'on discute de la salubrité des aliments, de la protection des végétaux et de la santé animale.
Donc, on va dire qu'il se passe une éclosion en ce moment et que l'on doit commencer une enquête. Pouvez-vous nous expliquer, étape par étape, comment ça se passerait?
Quand on fait une enquête, c'est toujours les mêmes étapes, même si elles sont un petit peu différentes à chaque fois, dépendant c'est quoi l'élément, le danger.
Dans un contexte d'une enquête pour une éclosion, où il y a beaucoup de cas de maladie, il y a tout un processus des différents partenaires au niveau fédéral, provincial, municipal, qui va accumuler l'information. Donc, au départ, ça va être l'Agence de santé publique qui va utiliser, par ses différents moyens de surveillance, qu'il y a un signal. Il y a beaucoup de gens qui sont malades avec la même chose, qui ont les mêmes symptômes.
So in terms of how we detect the outbreak, first people
pour ce qui est de la manière dont nous détectons l'éclosion, il faut d'abord que les gens soient exposés à des aliments contaminés, qu'ils tombent malades et qu'ils cherchent ensuite à se faire soigner. Ils doivent donc se rendre à l'hôpital ou consulter un médecin pour recevoir ou faire analyser un échantillon de sel. Si l'échantillon s'avère positif pour quelque chose comme E. coli ou la salmonelle, le cas sera signalé au service local de santé publique de la région où la personne contaminée vit. Un représentant du service local de santé publique l'appellera et lui posera des questions sur les aliments qu'elle a consommés avant de tomber malade, sur les contacts qu'elle a pu avoir avec des animaux, sur les voyages, sur l'exposition à l'eau, etc. En même temps, l'échantillon est soumis à d'autres tests en laboratoire afin d'en savoir plus.
Et là, eux, ils vont faire leur enquête épidémiologique, donc ils vont chercher à voir c'est quoi l'histoire des gens qui ont été malades, qu'est-ce qui leur a attrapé, qu'est-ce qu'ils ont mangé, est-ce qu'ils ont mangé à un endroit en particulier, est-ce qu'ils ont mangé le même aliment, quoi que ce soit.
Lorsque nous enquêtons sur les éclosions, nous avons accès à plusieurs outils différents, mais le plus important est sans aucun doute l'entrevue. Il s'agit de recueillir des renseignements très précis sur ce que les personnes ont mangé avant d'être malades. Nous appelons chaque personne victime de l'éclosion pour lui demander ce qu'elle a pu manger au cours d'un certain nombre de jours avant de tomber malade. Notre objectif est de trouver les points communs entre tous les cas et la source de l'éclosion. Mais évidemment, comme toute chose, il y a un piège. Il s'écoule souvent 4 à 6 semaines entre le moment où une personne est malade et celui où nous l'appelons pour l'interroger de nouveau. Heureusement, nous disposons d'un grand nombre d'intervieweurs compétents et de stratégies variées pour aider les personnes à se souvenir de ce qu'elles ont mangé il y a 1 ou 2 mois, parfois même plus longtemps.
Nous allons donc chercher à savoir si ces personnes ont quelque chose en commun par rapport aux aliments qu'elles ont consommés. S'agit-il de personnes qui mangent sainement et qui ont un régime alimentaire composé de fruits et de légumes, ou bien d'un type d'aliment très particulier? Nous nous intéressons également à l'âge. Sont-elles toutes d'âges différents ou observe-t-on un grand nombre de jeunes enfants dans un groupe de cas, ce qui pourrait nous donner un indice? Qu'est-ce qu'elles mangent qui pourrait être différent des autres groupes d'âge?
C'est un vrai travail de détective.
Yeah, so we think so.
Oui, c'est ce que nous pensons. Nous nous intéressons également à l'endroit où les personnes vivent. Le fait de vivre en milieu urbain ou rural peut être un indice utile, car si vous vivez dans une petite ville, il n'y a peut-être qu'une seule épicerie où vous vous approvisionnez, ce qui peut limiter le choix d'aliments disponibles.
Nous pourrions poser encore plus de questions, par exemple, si elles peuvent consulter leur relevé bancaire ou leurs transactions effectuées par carte de crédit, pour voir si elles sont allées au restaurant ce jour-là, ou si elles sont allées à l'épicerie ou dans un café. Nous pourrions leur demander si elles ont des reçus de leurs achats à l'épicerie pour la période en question. De nos jours, de nombreuses personnes prennent des photos de leur repas sur leur téléphone. Nous pouvons donc leur demander de regarder leur téléphone pour voir si elles ont des photos des repas pendant la période qui nous intéresse. Nous pouvons même leur demander de nous communiquer les renseignements relatifs à leur carte de fidélité. Par exemple, dans de nombreuses épiceries, si vous êtes client, vous avez une carte et vous accumulez des points. Avec l'accord de la personne, nous pouvons obtenir le numéro de sa carte de fidélité, effectuer un suivi auprès de l'épicerie en question et obtenir un relevé détaillé de tous les achats qu'elle a effectués au cours d'une période très précise.
Par exemple, nous avons appris que vous avez mangé une salade, mais à présent, nous voulons connaître tous les ingrédients de la salade. La vinaigrette utilisée, l'avez-vous préparée vous-même ou l'avez-vous achetée? Nous recherchons également des renseignements sur la salubrité des aliments. C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments. En ce qui concerne le traçage de la source, les renseignements sur les fournisseurs nous sont très utiles. Parfois, nous voyons des gens rapporter, tout le monde mentionne du yaourt, par exemple, mais il s'agit de marques différentes. Est-il possible que ces produits soient fabriqués au même endroit? L'agence serait en mesure d'examiner cette possibilité, ce qui nous aiderait à écarter ou à confirmer la possibilité que certains produits soient des sources potentielles.
Les partenaires en enquête de salubrité alimentaire, comme l'Agence d'inspection des aliments, vont aller voir sur place, okay, est-ce qu'il y avait des choses qui pouvaient provoquer ça? Est-ce qu'on peut trouver le produit qu'on pense que les gens ont testé, ont consommé? Est-ce qu'on peut le tester et faire des analyses de laboratoire? Aussi, l'Agence canadienne d'inspection des aliments va communiquer, on a visité telle usine, on a visité telle chose, voici nos observations, voici les facteurs qui ont pu contribuer à ce que le produit soit comme ça, ou inversement, on n'a pas d'informations particulières qui nous permettent de dire ça. Donc, c'est vraiment dans la communication puis dans le partage de l'information.
En fin de compte, Megan, tu continues l'enquête à partir de l'information recueillie par les épidémiologistes Tanis et Courtney.
Je pense qu'on collabore très en très proche relation avec eux parce que quand on a des cas de maladie, c'est eux qui sont en direct contact avec ces cas-là, avec les personnes malades. Alors, pour nous, pour qu'on puisse faire nos enquêtes, on a besoin, c'est le nom de c'est quoi l'aliment qui a été consommé, c'est quoi la date de consommation, à quel magasin qu'il a été acheté, s'il y a une marque, un numéro de lot, des détails comme ça. Alors, nous, pour qu'on puisse faire des enquêtes avec la distribution, l'importateur, le fabricant, on a vraiment besoin de tous ces détails-là, des aliments. Alors, quand on a une éclosion très active avec plein de cas de maladie, je dirais qu'on est en contact à chaque jour ou même quelques fois par jour avec les épidémiologistes.
Fait que si on regarde un peu comment les événements peuvent se produire de manière chronologique, la première étape, c'est ça va être l'Agence de santé publique du Canada qui va déterminer qu'il y a une éclosion. Il y a suffisamment de cas similaires pour déclencher une enquête pour une éclosion d'origine alimentaire. À mesure que l'information va être recueillie par les différentes agences de santé publique, en même temps, l'Agence canadienne des inspections des aliments va faire tout le travail d'enquête sur les procédures, sur la salubrité des aliments, sur l'origine d'où les aliments en question peuvent venir. Une fois que toute cette information-là est accumulée, on va arriver à un point où on a suffisamment d'informations pour dire on a un aliment qui est clairement la cause de cette éclosion-là. Et c'est à ce moment-là où l'Agence de santé publique et l'Agence canadienne des inspections vont transmettre leur rapport d'information à Santé Canada et on va avoir une demande formelle pour faire une évaluation de risque spécifique à la situation. C'est là que nous, Santé Canada, notre rôle va jouer. Une fois qu'on a complété notre évaluation, donc on va déterminer s'il y a un risque ou pas, puis on va déterminer la sévérité de ce risque-là. Puis si on dit qu'il y a un risque, on a trois classifications qu'on peut utiliser. On peut dire que c'est un risque à la santé de niveau 1, donc ça, c'est le plus sévère. Un risque à la santé de niveau 2, un petit peu moins sévère, puis un risque à la santé de niveau 3 où celui-là, on ne s'attend pas à ce qu'il y a des conséquences à long terme. On va retourner notre réponse avec notre recommandation à l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Avec cette recommandation-là, eux vont prendre les décisions nécessaires pour prendre des procédures de gestion de risque. Est-ce qu'on retire le produit du marché? Qu'est-ce qu'on fait avec ces choses-là? Est-ce qu'il devrait y avoir un rappel?
Est-ce que les compagnies refusent parfois de rappeler leurs produits?
Non, ça fait bien. Depuis 1999 et depuis ce temps-là, il y a eu plus de 10 000 rappels qu'on a fait. Il y a différents niveaux de rappels. Il y a des classes 1, des classes 2, des classes 3. Puis je pense qu'il y en a, il y a eu même juste 5 ou 7 des rappels obligatoires. Fait qu'un appel d'habitude au Canada, tous les rappels sont volontaires. Alors, après qu'on fait une évaluation de risque, on détermine, OK, c'est un risque de niveau 1, on va faire un avis au consommateur, on va le demander, puis on présente l'information à l'entreprise, puis ils vont dire, OK, pas de problème. Souvent, ils nous posent des questions juste pour comprendre le processus ou c'est vraiment plus de comprendre la situation, mais la plupart du temps, c'est correct. Mais on a un outil, comme que je dis, qui est très rarement utilisé. C'est un rappel obligatoire et c'est vraiment quand le ministre de la Santé va s'impliquer dans le dossier. Pour ajouter aussi, les entreprises, je trouve de plus en plus aussi, sont très collaborateurs. Alors souvent, ou de plus en plus, ils vont approcher l'ACIA pour dire, écoute, on a trouvé un petit problème, nous, on a fait notre propre enquête, on a fait des analyses en laboratoire, on aimerait se rappeler notre aliment. Fait que, tu sais, des fois, c'est déjà tout fait, puis nous, on veut juste classifier leur action et faire un avis public de notre côté avec eux.
Si vous ne recevez pas encore les alertes de rappel d'aliments, je vous suggère de vous inscrire en utilisant notre lien dans la description. Vous serez au courant des aliments qui font l'objet d'un rappel pour toutes sortes de raisons, y compris les allergies et la salubrité alimentaire.
Tanis, vous avez parlé des tests en laboratoire. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet?
L'une des principales méthodes que nous utilisons est appelée séquençage du génome entier. Il s'agit d'une méthode de laboratoire qui consiste essentiellement à établir l'empreinte génétique d'une bactérie. Ainsi, dans le cas d'une bactérie comme E. coli, Les bactéries ont un ADN qui leur est propre, des empreintes digitales, des empreintes génétiques, tout comme les personnes ont des empreintes génétiques. Et ces empreintes sont ensuite enregistrées dans une base de données nationale au Laboratoire national de microbiologie. Ainsi, les bactéries qui ont une source similaire ont plus de chances de provenir d'une source commune. C'est ainsi que nous découvrons de nouveaux groupes de maladies qui présentent le même profil génétique.
Est-ce que ça prend beaucoup de temps?
Not quickly.
C'est long.
Yeah, it can definitely take some time. So,
oui, ça peut prendre du temps. Une fois que l'échantillon a été prélevé, il faut parfois quelques jours pour procéder à l'analyse. Il faut passer par toute la chaîne, entre le moment où la personne est soumise au test et le moment où nous l'apprenons, ce qui peut prendre de 4 à 6 semaines. Il s'agit donc d'un délai important. Il est probable que vous sachiez que vous avez contracté E. coli ou Salmonella dans un délai de 2 semaines ou moins. Mais pour cela, les tests en laboratoire prennent un peu plus de temps.
Nous avons parlé des enquêtes réussies, mais y a-t-il des affaires non résolues, comme des enquêtes qui sont restées en suspens et que vous n'avez jamais pu résoudre?
For sure. I mean, we don't have a 100% success rate. We give it
C'est
our
sûr.
All for every
open. Enfin, nous n'avons pas un taux de réussite de 100%. Nous nous donnons à fond pour chaque éclosion. Notre devise est de ne négliger aucune piste. Mais vous savez, nous ne réussissons pas toujours, pour diverses raisons.
Des fois, c'est difficile quand c'est un aliment avec une durée de vie plus courte, parce que si c'est un fruit ou un légume frais, d'habitude, par le temps qu'on reçoit le cas de maladie, qu'ils ont fait un historique, une enquête sur le cas, qu'on a identifié le produit, c'est une, je sais pas, un exemple, une pomme qui a été consommée 6 semaines passées. Ben, cette pomme-là, puis on ne peut plus l'analyser, on ne peut plus l'envoyer au laboratoire, il n'y en a plus sur le marché.
So we would never stop investigating if new cases.
Nous ne cesserons donc jamais d'enquêter si de nouveaux cas continuent d'être signalés et que nous n'avons pas trouvé la source. Nous continuerons toujours d'enquêter jusqu'à ce que le problème soit résolu ou que nous ayons trouvé la source.
Et des fois, nous, on regarde tous les registres des compagnies quand on fait une demande de, tu sais, toute la salade romaine, si c'est l'aliment suspect, et on fait une demande de toute la salade romaine qui a été importée pour le mois de juin. Et on a, tu sais, des centaines d'importateurs, des fabricants, des distributeurs et tout ça. Fait que c'est vraiment faire des casse-têtes, là, à trouver le lien entre chacun pour voir s'il y a un lien possible, là.
Je suis curieuse de savoir quelle est l'éclosion de maladies d'origine alimentaire la plus importante sur laquelle vous avez travaillé.
For me, I've worked on quite a few over the years.
J'ai travaillé sur un certain nombre de cas au fil des ans, mais l'un des cas les plus intéressants pour moi reste l'un des premiers sur lesquels j'ai travaillé. Il s'agissait d'une éclosion d'E. coli qui s'est avérée être associée à la farine. Et la farine n'était pas vraiment une source connue à l'époque. Ce n'était donc pas quelque chose qui figurait déjà dans notre questionnaire. Et c'était la première fois que cela était découvert au Canada. Ce fut donc un véritable défi, car, comme vous pouvez l'imaginer, la farine n'est pas un aliment que les gens consomment. Si je vous demande ce que vous avez mangé au cours des derniers 10 jours, je pense que presque personne ne dira avoir mangé de la farine, parce que c'est un ingrédient. Les gens l'utilisent donc pour faire de la pâtisserie, mais aussi pour préparer des sauces, de la pâte à modeler et même dans certains produits de beauté. Nous faisions donc ces entrevues et n'arrivions pas à trouver quoi que ce soit. Un autre défi lié à la farine est que beaucoup de gens transfèrent la farine dans un autre contenant dans leur maison. Il n'y a donc pas de code de lot ou de date limite d'utilisation. Il n'y a pas d'emballage. Même si tu ne te souviens pas de la marque que tu as achetée, tu n'as plus ce sac.
Les étiquettes sont très importantes.
It is important, yeah. So
oui, c'est important. Oui, c'est vrai. Finalement, nous avons réussi à résoudre l'affaire. La farine est désormais sur la liste de ce que nous demandons aux personnes pour toutes les enquêtes sur E. coli. Mais cela a également permis de modifier les messages publics. Je pense qu'avant, les gens étaient légèrement conscients du fait que la pâte crue représentait un risque en raison de la présence potentielle d'E. crue. Mais ce que cette enquête nous a appris, c'est que la farine crue présente également un risque. Il s'agit d'un produit agricole brut. Elle doit être cuite. C'est pourquoi l'industrie a commencé à apposer sur les emballages un avertissement indiquant qu'il ne faut pas consommer de farine ou de pâte crue. Je suis par contre consciente que le fait de dire qu'il ne faut pas manger de pâte crue est très controversé.
Oh oui, la pâte à biscuits.
We did get a lot of feedback, I would say, on those.
Nous avons reçu beaucoup de commentaires sur les médias sociaux. Beaucoup de gens ont dit qu'ils ne renonceraient jamais à cela. Et dans le fond, c'est votre choix. Notre travail à nous consiste donc à veiller à ce que les Canadiens ont des bons renseignements disponibles pour prendre une décision éclairée au sujet de leur propre santé.
Et dans cet exemple particulier, combien de temps a-t-il fallu pour trouver que la source était la farine?
Yeah, so I vividly recall we identified this cluster.
Oui, je me souviens très bien que nous avons repéré ce groupe de cas durant la période de Noël 2016, puisque presque tout le monde était en congé. Et je me souviens d'avoir dit, « Oh, je pense que nous avons une éclosion. » Et à partir de là, il nous a fallu environ deux mois et demi, avant de pouvoir confirmer la source de cette éclosion. Cette fois-ci, c'était donc plus long.
Courtney, quel était ton exemple?
Je pense que l'éclosion la plus remarquable parmi toutes celles sur lesquelles j'ai travaillé est une éclosion attribuable à E. coli dans du kimchi. Cette éclosion était plus ou moins l'exact opposé de l'éclosion de farine décrite par Tanis, car nous l'avons résolue en moins de 48 heures. Le kimchi est donc, comme vous pouvez l'imaginer, un produit d'exposition plus rare. La majorité de la population ne mange pas de kimchi sur une base régulière.
J'adore le kimchi.
Oh, really? Okay, so you're one of these ones maybe eating it on a regular basis.
Ah, vraiment? D'accord. Tu fais donc partie de ceux qui en mangent peut-être régulièrement? Mais lorsque quelques personnes ont déclaré avoir mangé du kimchi dans les 10 jours précédant le début de la maladie, nous avons su très vite que nous étions sur la bonne piste et les choses se sont enchaînées très, très rapidement à partir de ce moment-là. Nous avons donc travaillé en étroite collaboration avec l'Agence canadienne d'inspection des aliments et un produit kimchi très précis a été rappelé au cours de la même semaine que celle où nous avons constaté la présence de l'éclosion. Il a été retiré du marché et personne d'autre n'a été malade, ce qui a été très gratifiant dans cette éclosion en particulier, car il s'agissait d'une souche précise de E. coli, réputée pour être très dangereuse. C'était aussi très intéressant parce que je pense que beaucoup de gens, y compris nous-mêmes, pendant cette éclosion, pensaient qu'un aliment acide comme le kimchi ne serait pas propice à la croissance des bactéries. Mais nous avons appris que ce n'était pas toujours le cas. Et c'est certainement l'une des principales leçons que nous avons tirées de notre travail sur les éclosions depuis plusieurs années, à savoir qu'il ne faut rien présumer. Nous avons toujours des occasions d'apprentissage, constamment, au fur et à mesure que nous travaillons.
Est-ce qu'il y a d'autres leçons que vous avez tirées de vos enquêtes?
So every time we have an investigation, we're always looking at...
Chaque fois que nous menons une enquête, nous nous interrogeons sur les enseignements que nous avons tirés. Y a-t-il quelque chose de nouveau que nous devrions faire connaître aux Canadiens? En 2021, nous avons enquêté sur une éclosion de salmonelle qui s'est avérée liée à du maïs congelé. Il s'agissait de la première enquête portant sur des salmonelles liées à des légumes congelés. Avant cela, le risque n'était donc pas vraiment considéré comme élevé. Nous avons donc mis à jour les messages à ce sujet sur le site web canada.ca afin que les gens sachent que les légumes congelés doivent être cuits conformément aux instructions figurant sur l'emballage. Il ne s'agit pas d'un produit prêt à consommer.
Des fois, ça prend du temps, puis des fois, il faut retourner puis poser des questions, puis dire « OK, cet élément-là est intéressant, mais est-ce qu'on peut approfondir davantage? » Puis c'est toujours un peut-être des plus gros défis, c'est de trouver l'équilibre entre agir rapidement pour prévenir d'autres cas, mais en même temps avoir la bonne information pour être sûr que le produit qu'on dit c'est un risque, c'est vraiment ce produit-là qui est le responsable des maladies qu'on voit puis qui se développent là. Donc, c'est vraiment dans la communication puis dans le partage de l'information. Dépendamment du niveau de risque, on a entre 8 et 48 heures pour fournir une réponse. Puis c'est sûr que quand on est dans une situation d'éclosion alimentaire, bien, on sait qu'il y a déjà des gens qui sont malades et on veut cesser qu'il y ait de nouveaux cas qui se développent. Donc, on veut vraiment faire le plus rapidement possible.
Un gros merci à Megan, Emily, Tanis et Courtney pour leur travail au sein de la santé publique.
Les enquêtes sur les éclosions d'origine alimentaire sont le fruit d'un travail d'équipe dans tout le Canada. Les services locaux, provinciaux, territoriaux et fédéraux de santé publique coopèrent afin de déceler la cause du problème et de rappeler tous les produits concernés. Si vous ne recevez pas encore les rappels d'aliments et les alertes, vous devriez vous inscrire. Nous avons inséré le lien dans la description ou dans la section pour en savoir plus sur notre page Web.
C'était Inspecter et protéger, le balado officiel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Merci de nous avoir écoutés.